gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro. La musique occupe au gré du temps une grande place dans la vie de notre invité. Nous avons eu le plaisir de l'accueillir l'hiver dernier, quelques jours avant Noël, et voilà qu'il nous revient avec un petit air d'été. Histoire de nous rafraîchir avec sa musique et celle qu'il aime. Jeune pianiste et compositeur de talent, avec nous, Lucien Dubois. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous avez passé un beau printemps, je présume?
Oui, tout à fait. Avec le psy chaud, beaucoup d'activités. Très beau printemps.
Et lorsqu'on s'est rencontrés l'hiver dernier, vous veniez de publier un album, de produire un album, votre premier album de pièces pianistiques. J'imagine que cela aussi, ça vous a probablement donné l'inspiration pour en produire éventuellement d'autres. Vous êtes toujours au piano?
Oui, tout à fait. J'ai déjà commencé à penser au prochain CD qui s'en viendra éventuellement.
Cet album avait pour titre, et a toujours pour titre...
Sans titre, C-E-N-T.
Et pourquoi donc?
Parce que c'est un album qui, en fait, sur lequel on trouve des pièces qui pourraient avoir différents titres. C'est très difficile de fixer un titre sur une pièce en particulier.
Est-ce plus difficile de fixer le titre que de composer la pièce elle-même?
Presque!
Ah oui? Étonnant!
Oui, des fois, de mettre en mots quelque chose qui est musical, c'est pas toujours tâche facile.
Ce qui est probablement cependant un grand avantage pour la musique instrumentale, c'est qu'elle est universelle. Peu importe la langue que l'on parle, on peut écouter votre musique, qu'on soit japonais, chinois, grec. La musique est un langage universel.
Tout à fait. On ne réalise pas, par exemple, lorsqu'on écoute du Bach ou du Beethoven ou du Tchaïkovski, que ces personnes ne pensaient pas en français lorsqu'ils ont écrit les pièces musicales. Et pourtant, on les apprécie tout de même.
Et c'est intéressant que vous évoquiez Beethoven, Bach, parce que vous nous avez proposé aussi des pièces musicales de ces compositeurs que nous aurons l'occasion d'entendre en cours d'émission. Mm-hmm. Mais histoire de se mettre un peu l'eau à la bouche, de découvrir qui vous êtes, on va écouter une première pièce dans quelques instants. J'aimerais cependant que vous nous parliez juste un tout petit peu de votre parcours au plan de la formation musicale.
Eh bien, lorsque j'ai commencé le piano, j'ai pris 4 mois de cours avec une professeure privée. Par la suite, ce fut 4 années de piano dans une école de musique, après quoi j'ai continué sur un plan individuel à apprendre différentes pièces et bien entendu à composer.
Est-ce à dire qu'il faut tous les jours, un peu comme quelqu'un qui s'entraîne pour un événement sportif, est-ce qu'il faut s'entraîner quotidiennement? Est-ce qu'on joue? Est-ce qu'on est en contact avec son instrument tous les jours?
Oui, et pour reprendre un peu les mots que vous avez utilisés, c'est pas qu'il faut être au piano à tous les jours, ça vient de façon naturelle. On se lève et on se met au piano. Juste avant de se coucher, on se met au piano aussi. Et on a toujours ce plaisir-là à jouer qui nous pousse à jouer.
Ça fait partie de soi. C'est comme un compagnon qu'on retrouve quotidiennement.
Tout à fait.
Et ça, c'est viscéral? On a besoin de cela?
Je crois que oui. Je n'ai jamais été séparé d'un piano assez longtemps pour dire si j'en avais réellement besoin, mais je crois bien que oui.
C'est intéressant qu'on puisse analyser cela sous l'angle peut-être de la psychologie du musicien, oui. Parce que vous êtes aussi un étudiant en psycho.
Oui, tout à fait. Puis je crois que plusieurs émotions, je vais les transmettre dans différentes compositions, soit après une belle journée, bien, par exemple, je vais me mettre au piano, puis là, je vais utiliser mes thèmes jazz pour exprimer cette joie-là. Ou même après un autre type de journée, c'est ce qui va donner des pièces comme celle qu'on va entendre prochainement, la pièce sans titre.
Thank you.
sans titre. Lucien Dubois, c'est d'ailleurs le titre de cet album, ce premier album que vous avez produit l'hiver dernier. On en espère déjà d'autres. Cependant, il faut quand même savourer cette musique. C'est un piano seul. Vous nous aviez raconté l'hiver dernier que vous souhaiteriez éventuellement être accompagné de musiciens. Mm-hmm. J'imagine que c'est une question d'harmonisation, de coût aussi. Lorsqu'on est jeune, on n'a pas nécessairement les moyens pour pouvoir produire avec un grand orchestre. Il y a une question pécuniaire, là.
Oui, tout à fait. Mais outre ça, c'est aussi le côté technique et le côté temps. Quoique le côté temps, il faut prendre le temps de s'asseoir, de composer, de s'instruire aussi, parce qu'on a besoin de notions aussi de questions techniques pour bien harmoniser le tout.
Quand on entend, comme la pièce que nous venons d'entendre, sans titre, on peut imaginer que quand vous écoutez de la musique, que vous écoutez de la musique à peu près semblable, mais là, on risque de se mettre un doigt dans l'œil et de se tromper complètement. N'est-ce pas?
Oui, tout à fait. Si je prends un exemple, lorsque j'écoute mes pièces, je ne pourrai jamais, je crois, les écouter de la même manière que vont le faire les auditrices et auditeurs.
Si je mentionne cela, c'est que la prochaine pièce que vous nous proposez, mm-hmm. elle est vraiment d'un style complètement différent. Mm-hmm. C'est la pièce qui a été composée en 2009 par Edward Maya, un chanteur roumain, qui va le sortir de l'ombre. Il n'a à cette époque que 24 ans. Son succès va faire le tour de la planète. Mm-hmm. Sa première chanson, dont il est à la fois un peu comme vous, le producteur et le musicien, il utilise la voix d'une copine, Vika Jigulina. Et en février 2013, les différentes versions de la chanson disponibles se retrouvent sur YouTube et ont généré, dit-on, plus de 250 millions de visionnements. On parle de la chanson
« Stereo Love ».
Thank you.
Stereo Love, Edward Maya, ça nous un peu désarçonne. On n'a pas l'impression qu'un compositeur de musique semi-classique écoute ce genre de musique. Qu'est-ce qui vous attire dans ce type de musique?
Eh bien, tout d'abord, je dois dire que j'écoute de tout type de musique. Je vais tant vers le classique, la musique plus techno. Je vais aussi vers les nouvelles tendances dubstep.
Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est une tendance musicale, un courant musical qui a pris naissance, surtout en Angleterre, qui va utiliser beaucoup d'instruments électroniques et qui a des rythmes très carrés, si je puis dire.
Dans le cas de Stereo Love, je pense que ce qui a accroché, à tout le moins, quand moi je l'ai entendu la toute première fois, et j'imagine que vous, à l'écoute, c'est peut-être ce qui vous a accroché aussi, si vous l'écoutiez pour la toute première fois, c'est cette rengaine d'accordéon
tout à fait.
Qui revient constamment et qui devient presque obsédante.
Oui, tout à fait. Puis c'était dans les premières pièces à l'époque, ça fait pas très longtemps, mais c'était dans les premières pièces où on mélangeait un style populaire, techno, et là où on avait un instrument qui n'avait aucun rapport avec le style musical. C'était donc une sorte de fusion entre différents genres.
Et curieusement, Edward Maya a parcouru, effectivement, comme je le disais, la planète tout entière. Il a donné beaucoup de spectacles. Avec dans sa valise Stereo Love, il a produit d'autres chansons par la suite, par exemple This Is My Life, toujours avec la chanteuse Vika Jigulina, Desert Rain, mais ces chansons n'ont pas réussi à connaître le même succès. C'est parfois l'envers de la médaille, un succès et puis l'inspiration ne permet pas de poursuivre vers cette voie.
J'étais allé le voir, il était venu au Festival des Montgolfières à Saint-Jean-sur-Richelieu, et c'est un peu ce qui ressortait de ce spectacle aussi. La pièce Stereo Love, il l'avait jouée et rejouée pendant quoi, une demi-heure, 45 minutes, mais c'était à peu près la seule pièce qu'on avait entendue cette soirée-là.
D'ailleurs, si vous fouillez un peu sur la toile, vous allez réaliser qu'il existe de très, très, très nombreuses versions de cette chanson qu'on a déclinée sous toutes les formes.
Acoustique, voilà. Chant grégorien.
Voilà. Alors, c'est assez particulier. Revenons à votre musique. Mm-hmm. Prochaine pièce.
La prochaine pièce, je l'ai composée, il était tout près de minuit. Alors, il faut s'imaginer que je suis seul le soir au piano. Les lumières sont presque toutes fermées. C'est calme dans la maison, tout le monde dort. Et là, je me mets au piano et c'est la pièce qui sort, donc la pièce que vous allez entendre, « Minuit ». Thank you.
Lucien Dubois, une pièce tout en douceur.
Tout en douceur et à la fin, on change de ton aussi.
Au plan technique, diriez-vous que vos pièces sont facilement décodables par d'autres musiciens?
Je crois que ça va dépendre du musicien qui va s'y attaquer ou s'y pencher. Je ne crois pas qu'on commence à jouer du piano qu'on va jouer de telle pièce. Je ne crois pas non plus avoir un niveau technique au niveau de la complexité qui compétitionne les grands compositeurs.
Vous travaillez cependant votre technique et souvent en attaquant des pièces du répertoire classique qui ne sont pas nécessairement faciles. Celles que nous allons entendre, vous y avez travaillé longtemps. J'imagine que c'est le genre de pièce avec laquelle on se délie les doigts.
Tout à fait. En fait, la pièce dont vous parlez, le troisième mouvement de Moonlight Sonata, Clair de lune de Beethoven, c'est une pièce qui a différents défis. Défis techniques, donc au niveau du doigté, mais je dirais même aussi défis physiques, puisque c'est très demandant tant pour le bras que pour les doigts. Mais lorsqu'on réussit à la jouer, c'est une très, très belle pièce.
Et c'est une pièce qui vous a permis de vous familiariser aussi avec certaines difficultés techniques pianistiques, parce qu'on retrouve à peu près toutes les difficultés dans ce mouvement presto agitato de cette sonate.
Oui, tout à fait. C'est un mouvement très rapide qui contraste beaucoup avec le premier mouvement qui, lui, est très, très connu. Et d'ailleurs, il y a une petite anecdote au sujet de cette pièce-là, Clair de lune, Moonlight Sonata. Est-ce vrai? Est-ce faux? En fait, l'anecdote serait que Beethoven, durant les dernières années de sa vie, a passé un moment où il était plus déprimé. Et un soir, il s'est retrouvé avec une dame qui, elle, était aveugle. Et c'était un soir de pleine lune. Ils étaient tous les deux à côté, appuyés sur une sorte de barrière de balcon. Et puis, à un moment donné, la dame dit à Beethoven, « Comme vous êtes chanceux, vous pouvez voir la lune. » Et à ce moment, Beethoven, qui était très déprimé, a réalisé, il semblerait, toute la chance qu'il avait de pouvoir voir cette lune-là. Et dans les jours qui ont suivi, il aurait composé cette sonate Clair de lune afin de faire voir en musique à la dame ce qu'était un clair de lune.
Au moment où lui découvrait cette capacité extraordinaire de voir la lune, mais devait composer avec sa souffrance probablement intérieure, puisqu'il était en train de perdre complètement l'ouïe.
Oui, tout à fait.
Peut-être était-il déjà, je ne sais pas en quelle année la sonate au clair de lune a été écrite, peut-être était-il déjà presque sourd, parce qu'on raconte aussi que le plus grand chef-d'œuvre musical de tous les temps, qui d'ailleurs a été reconnu par les Nations Unies comme étant une œuvre de l'humanité, c'est bien sûr l'Ode à la joie, la 9e symphonie, extrait de la 9e symphonie de Beethoven. Et on raconte que cette 9e a été composée au moment où Beethoven était complètement sourd, mais qu'il l'entendait à l'intérieur de lui-même. Et on sait ce que c'est devenu. Alors, on va donc écouter ce troisième mouvement, presto agitato, de la sonate pour piano, numéro 14, opus 27, numéro 2, dite au clair de lune en do dièse mineur de Ludwig van Beethoven. Et elle est interprétée ici par le pianiste qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup influencé lorsque j'étais jeune. De tous les pianistes, c'est probablement celui qui me touche le plus, c'est Wilhelm Kempff.